Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. 17 mai, aujourd'hui, date dédiée à l'armée congolaise. Le chef de l'État rend hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la population qui font face nuit et jour à l'activisme du M23 sous couvert du Rwanda. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit lors du dernier conseil des ministres hier à Kinshasa. Tension persistante à l'Assemblée nationale au sujet de l'élection du bureau définitif. Le chef de l'État rencontre d'ici peu le présidium et les députés de l'Union sacrée. C'est pour trouver une solution à cette crise. Entre-temps, le scrutin prévu pour demain samedi devient incertain. Et puis, poursuite de la foire internationale de Bukavu, ouverte depuis 10 jours maintenant, elle regroupe plusieurs opérateurs économiques venus notamment du Burundi et de la Tanzanie. L'institution des microfinances Paidec a loué un stand à cette foire. Nous recevons justement son responsable marketing, Séraphine Mapendo. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République rend hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la population qui font face nuit et jour à l'activisme du Rwanda et du M23. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier, vendredi, au cours, hier jeudi plutôt, de la 135e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. Par ailleurs, il a réitéré la volonté du gouvernement congolais de tout faire pour mettre fin à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Écoute un extrait du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, extrait proposé par Alain Rongouchinge.
Comme annoncé auprès de ses hôtes européens et au lendemain de l'inhumation de 35 âmes injustement arrachées à la vie lors de cette attaque, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort et ne lésinera point sur les moyens qui s'offrent à lui pour mettre un terme définitif à cette odieuse agression. À ces propos, le président de la République a rendu un vibrant hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, de même qu'à la population qui font face nuit et jour à l'activisme terroriste et criminel de la coalition rwandaise M23 avec une ferme détermination. Enfin, il a réitéré son appel à toutes les filles et tous les fils de notre nation à se dresser comme un seul homme face à nos agresseurs et au gouvernement de poursuivre les efforts engagés dans le retour de la paix et de la sérénité dans cette partie du territoire national.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi remercie officiellement les membres du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé dans ce conseil des ministres toujours. Cet au revoir annonce la nomination imminente de la nouvelle équipe gouvernementale de la République démocratique du Congo que va diriger la première ministre Judith Soumy Nwatuluka, selon des témoignages des membres du gouvernement, indique l'agence congolaise de presse ACP. Pendant ce temps, au Nord Kivu, situation relativement calme ce vendredi sur toutes les lignes de front dans les territoires de Masisi et de Rutshuru notamment. C'est après une journée d'affrontements hier sur plusieurs fronts dans le territoire de Rutshuru autour de Kibirizi et la Ruindi. Des sources à Kibirizi soulignent qu'en dépit des offensives menées par les FARDC pour tenter de déloger les rebelles du M23 de ces espaces qu'ils occupent, les lignes n'ont pas bougé. Chaque parti garde ses positions initiales. Statu quo également dans le village de Kashuga, près de la cité de Mouesso dans le territoire de Masisi. Ici, les combattants NDC rénovés se sont accrochés hier avec le M23. Nord Kivu toujours, 11 présumés rebelles des EDF comparaissent en audience foraine à Beni depuis mercredi devant le tribunal militaire de garnison de Beni. Ces prévenus sont poursuivis pour différentes infractions, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre l'humanité par meurtre, crime contre l'humanité par viol et esclavage sexuel. Des détails avec André Kitenge.
Ces audiences ont été ouvertes mercredi par le tribunal militaire garnison de Beni, siégeant en matière répressive et au premier degré dans la localité de Buyonga Marundo. Nous sommes à 5 km de la ville de Beni sur la route Beni-Kassindi. Ces audiences opposent le ministère public à 11 prévenus, tous présumés rebelles des ADF. Ces derniers sont poursuivis entre autres pour participation à un mouvement insurrectionnel, meurtre, violences sexuelles, torture et autres traitements inhumains et dégradants, ainsi que des actes passibles de crimes crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Des faits commis en novembre 2002 dans les localités de Maboya et Kabacha sur la route Beni-Boutembo. Pour cette première journée, seuls 3 prévenus ont comparu. Après vérification des identités des prévenus et lecture des charges retenues par le ministère public, le tribunal s'est déclaré régulièrement saisi à l'égard de tous les prévenus. Ces audiences foraines qui vont durer 10 jours sont organisées avec l'appui technique et financier de la MONUSCO à travers les fonds programmatiques de la section d'appui à la justice en partenariat avec Avocats sans frontières. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Direction la province de la Tchopo. Les forces sociales et politiques réclament le déploiement de l'armée dans la commune de Lubunga à Kisangani. Objectif, mettre un terme aux tueries qui se poursuivent par rapport au conflit intercommunautaire Mbolele-Ngola. Tenez par exemple, le mercredi, 4 personnes ont été tuées. La société civile Sauti à Lubunga demande l'implication du gouvernement congolais pour arrêter ce carnage. Appel réitéré hier par le député national élu de la ville de Kisangani, Théovel Lotika, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Personnellement, je n'ai pas senti de la part du VEPM un engagement ferme à pouvoir mettre un terme à ces tueries, à ces drames qui continuent à ruiner la population boyomaise. Le VEPM a proposé un forum de paix entre communautés, ce qui n'est pas mal du tout. Mais en attendant la tenue de ce forum, je propose, parce que les tueries continuent, que l'État impose d'abord la paix en déployant cette fois-ci l'armée, parce que la force spéciale de la police envoie sur place il y a quelques mois semble être dépassé par les événements. La paix doit s'imposer et l'État a les moyens pour y arriver. Il suffit d'un peu de volonté et d'un peu d'attention à cette population. Tout peut se faire, tout peut être résolu. Parce que moi j'ai comme l'impression que lorsqu'il s'agit de la Tchopo, lorsqu'il s'agit de Tsangani, le gouvernement central n'accorde pas beaucoup d'attention à ce qui se passe chez nous là-bas et c'est regrettable. Donc je pense qu'il faut d'abord imposer la paix parce que c'est possible de le faire. Ces petits bandits qui opèrent, qui égorgent les gens, qui tuent les gens délibérément, je ne pense pas qu'ils soient plus forts que nos forces de sécurité, que l'armée congolaise.
L'élu de Kisangani signale qu'à cause de ces tueries au centre de la commune Lubunga, cette entité est en train de se vider de sa population. Cette dernière trouve refuge à la rive droite du fleuve Congo. Autre nouvelle, l'Union européenne consent un appui substantiel pour des projets relatifs à la stabilisation et au relèvement communautaire dans les provinces de l'Ituri et du Sud Kivu. C'est ce qui a été dit hier dans une rencontre entre la délégation de l'Union européenne et le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Cette réunion fait suite aux deux précédentes. C'était un échange concret sur l'appui de l'Union européenne dans les opérations de pacification, de stabilisation et de réintégration communautaire entreprise par le PDDRCS dans certaines provinces du pays. On écoute à ce sujet Mathilda Chedwin, chargée d'affaires intérimaires de l'Union européenne. Elle est au micro de Alpha Mpoissa.
C'était pour faire le point sur la mise en œuvre du programme PDDRCS et aussi de notre côté de faire le point vis-à-vis le coordinateur de nos activités qui sont là pour accompagner le programme et les activités de programme dans tout ce qui est rélevement communautaire et stabilisation. Oui, si on regarde les lettres de PDDRCS, c'est vers le RCS où on s'implique et on a discuté, on a expliqué au monsieur le coordinateur que nous, on a priorisé dans notre programmation l'Ituri et le Sud Kivu et certains territoires là-dedans. Et je pense que ça convient aussi aux priorités de coordinateur. Alors ça va être, je pense, une très bonne chose. Et il s'agit des activités de haute intensité de main-d'œuvre, par exemple, dans ces territoires-là pour les anciens combattants, mais aussi pour les personnes à haut risque ou vulnérables dans les communautés. Parce que c'est ça le programme, c'est ça la nouveauté de programme, qu'on travaille ainsi avec les anciens combattants et avec les communautés.
Et de son côté, l'abbé Jean Bosco Baala, coordonnateur national du PDDRCS, indique que le choix de l'Ituri comme province prioritaire des actions de l'Union européenne rencontre le plan opérationnel établi par le PDDRCS et accompagne les efforts actuels du chef de l'État pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays longtemps marquée par la violence. Parlons à présent de la prochaine élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État rencontre ce vendredi le présidium et les députés de l'Union sacrée afin de mettre fin à la crise qui règne entre les deux partis depuis des jours. Alors que la campagne électorale s'est clôturée à minuit, la pétition lancée par les députés contre Christophe Mboso, président du bureau d'âge, a déjà réuni plus de 125 signatures requises pour sa destitution. L'élection du bureau définitif prévue pour demain samedi devient donc hypothétique car les députés pétitionnaires ont déjà saisi le Conseil d'État qui fixe son audience pour le lundi 20 mai. Explication Michel Kifindangoy.
Après l'opposition parlementaire qui dénonce la prise en otage de l'Assemblée nationale par Christophe Mboso et ne jure que par son départ, les députés de la majorité recourent à tous les moyens légaux pour barrer la route au président du bureau d'âge. Steve Mbikai.
Notre pétition a déjà reçu plus de 125 signatures qui étaient requises et sera déposée demain matin. Et d'un côté, compromis, nous avions saisi le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a fixé l'audience lundi prochain. Logiquement, si le bureau de l'Assemblée est légaliste, il doit reporter les élections en attendant qu'on ait l'arrêt du Conseil d'État.
Occasion pour le député Didier Kamundu d'exhorter le président Christophe Mboso de quitter la vie politique par la grande porte.
Le destin a donné au président Mboso toutes les chances de finir sa carrière en gras. Il est en train de forcer ce même destin pour finir en petit. Je le conseillerais d'être vraiment sage, puisque les députés ne sont pas prêts à lâcher, d'être une caisse de résonance.
En entendant la réunion convoquée par le président Félix Tshisekedi, les députés de l'Union sacrée disent n'être d'accord qu'avec la candidature de Vital Kamerhe, Jean-Claude Tshilumbayi et Jacques Djoli.
L'actualité, c'est aussi la deuxième édition de Goma Mining Briefing qui s'est tenue hier à Goma sous le thème « La gouvernance des ressources minières, enjeux sécuritaires, économiques, sociaux, environnementaux et opportunités d'investissement dans l'Est de la RDC ». Il était question au cours de ce forum d'examiner l'impact des conflits et de l'instabilité sur le secteur minier et de discuter des stratégies pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région, mais aussi de découvrir les opportunités d'investissement dans ce secteur. Denis Loukesso, reportage.
L'instabilité sécuritaire et autres conflits ont impacté négativement le secteur minier au Nord Kivu, avec comme conséquence la baisse de la production, et par ricochet, c'est l'économie du pays qui est touchée, ont démontré les panélistes lors de ces forums. Madame Yvette Monza, présidente provinciale de la Chambre des mines au Nord Kivu, l'une des panélistes, préconise comme solution l'imposition par le gouvernement de la restauration de l'autorité de l'État dans toutes les zones occupées par les rebelles.
C'est au gouvernement de renforcer l'autorité de l'État, de récupérer les zones qui sont passées sous contrôle rebelle pour que son autorité soit restaurée et que les opérateurs qui sont légalement établis et agréés par lui exercent maintenant leurs activités conformément à la loi et aux exigences internationales.
Et en dépit des différents défis, l'organisateur de ces forums a mis en exergue les opportunités d'investissement dans les secteurs miniers. Keti Amouli est la présidente de Goma Connect.
On ne va pas s'appuyer seulement sur le fait qu'on soit en insécurité pour refouler les investisseurs. Nous devons montrer au monde entier les opportunités d'investissement qu'on peut avoir dans les secteurs miniers de ce côté du pays.
Les participants ont formulé des recommandations et se sont engagés à appliquer les principales. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Et puis, un lot de plus de 200 engins d'assainissement de la ville de Kinshasa réceptionnés cette semaine dans la concession appelée TP à Limete Funa. Ces engins viennent de la Turquie où ils ont été fabriqués sur mesure en tenant compte des dimensions des rues et ruelles de Kinshasa. Ils vont permettre à l'entreprise Al-Bayrak, spécialisée en assainissement et traitement des déchets, de nettoyer les rues de la capitale congolaise. Le gouverneur sortant de la ville de Kinshasa qui les a réceptionnés a salué le partenariat commencé depuis presque 4 ans avec cette entreprise turque. Reportage de Blaise Shindani Kambala.
Le gouverneur Ngobila s'est dit heureux de voir ses engins arriver à Kinshasa en dépit de nombreuses difficultés.
Pour nous, c'est une fierté de voir que ce que nous avons promis déjà depuis l'année 2020 finit par se réaliser. Malgré que au Congo, comme j'ai dit, dans notre pays, nous avons des sérieux problèmes avec nos institutions, nous ne collaborons pas de façon correcte. Les véhicules qui sont arrivés depuis le mois de février, c'est seulement aujourd'hui que nous les recevons ici dans ces garages.
Gentilly Ngobila a par ailleurs affirmé que ce projet rêvait d'une importance capitale pour la ville, dans la mesure où Kinshasa va jeter des bases solides d'une collaboration fructueuse avec ses partenaires dans l'amélioration des conditions environnementales des Kinois. Et ce, dans le respect de la notion de durabilité dans la gestion des services d'assainissement qui sont réalisés sur le terrain. Le numéro 1 de la ville a profité de cette occasion pour appeler les bourgmestres à s'impliquer dans ces opérations d'assainissement de la ville pilotée par la société Albarak. Il a également invité la population kinoise à adopter un comportement éco-citoyen en vue d'accompagner ce projet, notamment dans sa phase opérationnelle. Notons que la population kinoise, justement, ne cesse de se plaindre ces derniers temps de la dimension d'insalubrité observée dans tous les coins de la capitale.
En Ituri, une équipe de la Croix-Rouge locale procède depuis mardi à l'assainissement de la prison centrale de Bounia qui abrite plus de 2300 détenus. Selon un cadre de cette organisation, cette action vise à lutter contre certaines maladies et protéger contre des infections des centaines de visiteurs qui fréquentent chaque jour cette prison. Une brigade d'assainissement y est également installée pour maintenir l'hygiène. Lydia Tchombe.
Des secouristes du quartier Bakoko se sont mobilisés pour assainir la prison. Munis de chlore et matériel de pulvérisation, ils ont désinfecté les dortoirs, les chambres des détenus dans les cellules hommes, femmes et enfants ainsi que des latrines. C'est dans le but de réduire le risque de contamination et de maladies dans cette prison. Selon le constat fait par la Croix-Rouge, de nombreux détenus portent des parasites et des poux dus au non-respect de l'hygiène corporelle et de leur environnement, ce qui constitue un danger pour la santé des détenus. Cadre de la coordination de la Croix-Rouge du quartier Bakoko, Baimelia Philippe.
Il faut que nous puissions prendre en charge pour la réduction de ces insectes, des pinaises ainsi que des poules dans des habits pour chercher à réduire un peu les risques, même des maladies.
Le directeur de la prison centrale a encouragé cette initiative qui permet également de protéger contre certaines maladies les familles des détenus qui fréquentent quotidiennement cette maison carcérale. Camille Nzonzi.
Comme la Croix-Rouge venait à les lieux là est fréquenté par tout le monde. Même les gens qui ne sont pas en détention, de visiter cela, ça épargne la maladie.
Le nombre de détenus ne cesse de croître à la prison centrale suite aux violences commises dans cette province affectée par la guerre. Bounia, Lydia Tchombe, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Tchad. Le Conseil constitutionnel valide l'élection du président de transition Mahamat Idriss Déby, ce après le scrutin du 6 mai dernier. Le général qui vient de fêter ses 40 ans obtient 61,3% des suffrages exprimés contre 18,54% pour son premier ministre Succès Masra et 16,93% pour Albert Paimi. Le Conseil rejette ainsi le recours en annulation déposé juste après les résultats provisoires par les deux principaux adversaires de Déby qui, après plusieurs reports, aura obtenu ses élections, surtout avec un taux de participation de 75,78%. Le président du Tchad légitime donc son pouvoir acquis à la mort de son père, Idriss Déby, sur la ligne de front en 2021.
L'invité.
Nous sommes au Sud Kivu. La foire internationale de Bukavu, ouverte depuis le 7 mai en cours, s'est poursuivie dans la commune d'Ibanda, au chapiteau Labotte. Elle regroupe les opérateurs économiques venus du Burundi, de la Tanzanie et des provinces congolaises, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika. Les activités se déroulent normalement. Séraphine Mapendo, responsable du marketing de l'institution des microfinances, Paidec, a loué un stand à la foire pour intéresser le public sur les activités de Paidec au Sud Kivu. Elle est l'invitée de ce journal et s'entretient avec Jean Kassami.
Séraphine Mapendo Chirinda, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ici, à la foire internationale de Bukavu, vous représentez quelle institution?
Je suis le responsable du marketing de l'institution des microfinances Paidec.
Pour quel intérêt une institution de microfinance comme la vôtre vient aussi louer un stand juste dans une foire à caractère international?
La foire d'abord s'intéresse aux entrepreneurs et ces entrepreneurs viennent des différentes couches sociales, entre autres des agriculteurs, ceux qui sont dans la chaîne des valeurs. Il y a les petits commerçants, il y a les artisans et autres. Et Paidec est là pour accompagner tous ces entrepreneurs parce que nous avons deux produits, nous avons les crédits et l'épargne. Et l'épargne concerne tout le monde, toute catégorie de personnes. Et là, nous sommes en train d'ouvrir gratuitement les comptes au niveau de notre stand, ici à la botte au chapiteau. Mais également, nous renseignons les clients sur les crédits. Par exemple, le crédit jeune entrepreneur, c'est un crédit que nous octroyons aux jeunes qui entreprennent, qui sont encadrés dans différents groupes selon qu'ils viennent de tel ou tel incubateur. Et nous sommes en train de les accompagner en leur montrant comment ils peuvent utiliser les crédits, les conditions d'accès au crédit. Chez nous, nous avons un taux très préférentiel. Et les entrepreneurs qui sont ici à la foire sont en train de passer, se renseigner. Nous, nous les rencontrons dans leurs différents stands pour que nous puissions les accompagner. Comme vous le savez, Paidec existe depuis plus de 30 ans. Il est au nord Kivu, au sud Kivu. Nous avons 9 agences. Et nos produits que nous donnons, ce sont les produits qui sont vraiment adaptés aux besoins de la population. Parce que lorsqu'ils veulent ouvrir un compte, ils ouvrent un compte qui est adapté à leur situation. Il y a un compte pour les enseignants, il y a pour les entrepreneurs, il y a pour les grands commerçants, il y a pour les travailleurs. Il y a le crédit adapté à toute couche des populations. Voilà pourquoi nous sommes là pour les accompagner.
Oui, madame, lorsque vous dites que chez vous, à Paidec, que vous avez un taux préférentiel, concrètement, ça veut dire quoi?
Cela veut dire que lorsqu'un client arrive chez nous à Paidec ou lorsque nous les rencontrons là où il est, il se renseigne. Nous, on veut comprendre le genre d'activité qu'il fait. Et là, on se rend compte, par exemple, s'il est un agriculteur, nous savons que chaque culture a une saison culturelle, un cycle avant qu'on puisse récolter. On s'est dit, pour cet agriculteur, nous allons lui donner, par exemple, un crédit qu'il va rembourser après avoir récolté. Parce que c'est après avoir récolté qu'il va vendre ses produits et il va avoir l'argent pour rembourser le crédit. Là, nous allons adapter son crédit par rapport à son activité, par rapport à ce qu'il fait. Si c'est un commerçant, un grand commerçant qui exporte et qui amène la marchandise qui est écoulée régulièrement, il y a un crédit qu'on va lui donner selon les taux et selon l'activité qu'il fait. Donc, chaque catégorie a un taux lié à son activité. Si c'est un jeune entrepreneur qui est en train de commencer à entreprendre, il se recherche, on lui donne un taux le plus bas. Mais il peut être un jeune pendant qu'il a, par exemple, une entreprise qui produit beaucoup. Il ne sera pas traité comme un petit jeune entrepreneur, mais comme un grand entrepreneur qui a déjà une entreprise. Voilà pourquoi nous disons le taux est adapté à tout un chacun et le genre de crédit ou l'épargne est adapté à toute catégorie.
Vous avez enregistré des adhésions ici à la foire?
Oui, oui, nous sommes déjà à plus de 80 adhésions. En tout cas, les gens qui viennent, ils s'inscrivent. Nous, on les appelle les clients parce que c'est eux qui viennent et nous, nous les rencontrons et nous vendons nos services selon qu'eux, ils en ont besoin. Donc, chez nous, on n'adhère pas, mais on s'inscrit.
Et pour attraper un espace comme celui-ci, où vous installez votre stand, c'est gratuit?
Non, ce n'est pas gratuit. Non, nous sommes là, Paidec, et à la foire comme partenaire. C'est que nous ont adressé leurs propositions, nous ont montré ce dont ils ont besoin pour la foire. Nous, on a souscrit, on a donné une petite contribution pour que la foire puisse avoir lieu. Donc, nous sommes à la foire comme partenaire. Mais il y a ceux-là qui ont acheté des stands, les entrepreneurs venus de la Tanzanie, du Burundi et de la RDC.
Nous vous disons merci.
Nous vous remercions également.
Notre invité, c'est Séraphine Mapendo, responsable du marketing de l'institution des microfinances Paidec. Elle répondait aux questions de Jean Kassami. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.